Il est 11h30, Infobag avec Nicolas Legrand.
1. Dispositif de sécurité renforcé sur la RP1 après l'échec de la réouverture samedi à Saint-Louis. Les gendarmes ont déployé d'importants moyens. La circulation se fait de manière alternée et en convoi. Des gendarmes se trouvent également sur le bord de la route. L'actualité politique dans ce journal avec un retour sur notre invité du matin, Nicolas Metzdorf, le député de la première circonscription qui était interrogé par Elisabeth Noir. Elisabeth Noir que vous retrouverez également dans ce journal dans la chronique de la semaine écoulée. Émotion et colère, un an après l'attaque terroriste du Hamas, des rassemblements ont été organisés en métropole mais aussi en Israël pour rendre hommage aux victimes mais aussi demander la libération des otages. L'horreur à Marseille dans la guerre du narcotrafic. Un tueur à gages de 14 ans a tué son chauffeur VTC. Un adolescent de 15 ans a lui été tué de 50 coups de couteau avant d'être brûlé. Retour en Nouvelle-Calédonie avec le lancement du service national universel. Une cérémonie d'ouverture était organisée ce matin au lycée La Pérouse pour accueillir les volontaires. Bonjour et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité ce midi, vous le savez, le lundi, c'est l'actualité sportive qui arrive après le journal. L'occasion de parler entre autres de football avec Léo Fichou, le Paris Saint-Germain qui n'est plus leader de la Ligue 1.
Et non, le PSG tenu en échec, un but partout sur la pelouse de l'OGC Nice, cède sa place de leader à Monaco, victorieux 2-1 de Rennes. Marseille de son côté piétine, un but partout face au dernier Angers, mais reste tout de même sur le podium.
Du rugby également avec une nouvelle défaite pour le Stade Toulousain.
La deuxième d'affilée pour les joueurs du Gomola, défaite 23-28 contre le Castres Olympique. Bordeaux-Bègles et La Rochelle, eux, enchaînent. Victoire de l'UBB 30-27 sur l'Aviron Bayonnais et de La Rochelle 43-22 sur Lyon. Les deux clubs de la côte atlantique sont en tête.
Alors évidemment, il y aura tous les résultats tout à l'heure dans le Mag des Sports et puis on parlera aussi de l'actualité du golf en Calédonie.
Et oui, nous parlerons effectivement de golf avec Jean-Benoît Peudetour, le président de la Ligue calédonienne. L'occasion de revenir sur les prochains tournois prévus sur le territoire, les championnats de France aussi et bien évidemment Darian Clot qui va rejoindre la première division européenne la saison prochaine.
Rendez-vous donc en fin de ce journal. Un tout nouveau dispositif de sécurité à Saint-Louis. La RP1 était de nouveau ouverte ce matin. Vous le savez, ce week-end, la première réouverture partielle a été marquée par un nouveau carjacking. C'est donc sous une vigilance accrue des forces de l'ordre que certains automobilistes ont donc décidé ce matin de réemprunter cette route, Mickaël Juneski.
Des convois de voitures escortés par des gendarmes et les forces de l'ordre encore déployées le long du parcours. À chaque point d'entrée, les automobilistes sont invités à patienter pour une circulation qui se fait en alternance, tantôt dans le sens nord-sud, tantôt sud-nord. C'est ainsi que la RP1 est de nouveau ouverte sur des plages horaires établies de 6h à 9h le matin, de 15h à 18h l'après-midi. Ils n'étaient pas nombreux ce lundi à attendre pour passer, mais des Mondoriens ont tout de même décidé de faire la fameuse traversée qui était, durant plusieurs mois, la route de tous les dangers. Des automobilistes à la fois rassurés du renforcement de la sécurité, mais toujours sur le qui-vive.
J'habite au Mont-d'Or, alors oui, on va décider d'y aller un peu, on va essayer. Voilà.
Je l'ai déjà fait ce matin.
Oh, ça va.
Ça fait peur, mais ça va. Oui, oui, il n'y a pas de souci.
Et malgré la surveillance renforcée, le dernier vol avec violence survenu samedi soir a surpris et reste dans tous les esprits, alors que la réouverture partielle avait déjà été annoncée. Parmi ceux qui ont décidé de franchir le pas ce matin, certains ne cachaient pas leur anxiété. Pour d'autres, la volonté était avant tout de pouvoir enfin circuler librement.
La peur n'évite pas le danger, on va dire. Donc on ne va pas s'arrêter de vivre.
Pas de souci, on y va. Voilà. Ouais, on verra bien. Espérons.
Et on rappelle qu'hier, une nouvelle intervention des gendarmes a permis d'interpeller 7 individus. Si les habitants du sud du Mont-d'Or, près de 10 000 personnes, espèrent voir sur le long terme, si le travail portera ses fruits, une partie de la population de la tribu elle-même ne se cache plus pour dire qu'elle aussi vit dans la peur face à des individus qui sévissent toujours à Saint-Louis.
Je passe tous les jours parce que je suis de Saint-Louis. Ben, l'attention a vraiment retombé par rapport au début. Mais il y a toujours des petites exactions, donc il faut que les gendarmes fassent leur travail.
Je ne fais pas la traversée parce que je préfère attendre ici et que les gens sortent. Surtout que là, j'ai un enfant, ce n'est pas sécurisé pour moi. C'est compliqué, et même pour les habitants aussi, vu que là, je viens chercher des habitants de la tribu. Non, moi, c'est impossible de rentrer et les récupérer. Je préfère les attendre dehors.
Là-bas aussi, ils ne sont pas rassurés. Ils espèrent que ça va s'arranger.
Oui, ils ne sont pas rassurés. C'est pareil.
Et pour le moment, il n'y a pas eu de nouvel incident signalé. Après 150 jours de fermeture de l'axe routier, la RP1 est ouverte donc partiellement, on le rappelle, de 6h à 9h et de 15h à 18h. Seulement si les conditions de sécurité pour les automobilistes restent assurées. On rappellera également que la province sud a décidé de maintenir son service de navette maritime.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Selon vous, va-t-il être possible un jour de sécuriser durablement la circulation sur la RP1 à hauteur de Saint-Louis ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation. Et rendez-vous donc demain pour notre réponse à la question du jour. L'actualité politique dans ce journal. Revenu samedi de Paris, le député de la première circonscription était notre invité du matin à 7h30 et il a été interrogé sur sa réaction à la déclaration de politique générale du Premier ministre Elisabeth Noir.
Nicolas Mézenf avait estimé que le Premier ministre était passé à côté des priorités des Calédoniens et il s'en est expliqué ce matin en relevant deux points. Michel Barnier a annoncé la fin du texte sur le dégel sans donner de perspective sur une ouverture éventuelle du corps électoral. Et il n'a pas parlé des urgences économiques, sociales et humanitaires de la Calédonie. C'est ce qui a suscité la vive réaction du député de la première circonscription, qui le lendemain, à l'Assemblée nationale, a reproché au Premier ministre d'avoir humilié et abandonné les Calédoniens. Une intervention que certains ont trouvée trop agressive.
Oh, mais il ne faut pas se formaliser pour si peu. Vous savez, à l'Assemblée nationale, ça fait, c'est mon deuxième mandat quand même. Il faut savoir se faire entendre et respecter. Voilà, parce que si... On n'ose pas le ton, des fois, eh bien, on n'est pas entendu. Vous savez, c'est 577 députés, c'est des politiciens de haut niveau. Et pour survivre dans l'aquarium, il ne faut pas être le petit poisson rouge. Hein. Parfois, il faut être le requin. Donc, voilà, j'ai haussé le ton. J'aime pas faire ça en plus, mais j'ai trouvé qu'il avait dépassé les bornes la veille.
Nicolas Mézenf qui précise que les choses se sont depuis apaisées. Le Premier ministre a modifié sa déclaration devant le Sénat et ils ont échangé au téléphone. Mais selon lui, il va falloir être très vigilant. Il estime significatif à cet égard qu'Emmanuel Tchibaou soit le seul député de son groupe à ne pas avoir signé la motion de censure déposée à l'encontre du Premier ministre. Nous lui avons demandé l'état de ses relations avec son collègue de la seconde circonscription.
Non, moi je lui en veux beaucoup au député Tchibaou d'avoir été, un, à l'AG de la CCAT et deux, d'avoir participé à ce pseudo-congrès du FLNKS où ils ont mis Christian Théin à la tête du front alors qu'il n'y avait pas le Palika et l'UPM. Je trouve qu'il a changé de fusil d'épaule entre une campagne électorale où il se disait député patriotique, où il mettait le drapeau français dans les meetings, et un discours maintenant qui s'est radicalisé à l'Assemblée nationale et dans les actes envers les mouvements indépendantistes. Donc on continue à échanger, bien sûr, on se croise hein, à l'Assemblée nationale, on discute. Le dialogue n'est pas rompu, hein. On ne se fait pas la tête. Mais néanmoins, il n'y a plus de démarche en commun parce que moi, je ne peux pas accepter, et ça explique aussi mon absence dans la délégation du Congrès, je ne participe pas à ça parce que je me dis, mais on est en train d'aider l'Union calédonienne à Paris, on leur ouvre des portes des ministères, alors que c'est eux qui ont créé la CCAT, qui a tout détruit en Nouvelle-Calédonie, et ils viennent demander de l'argent à la France pour réparer leurs dégâts, tout en demandant l'indépendance aussi.
Nicolas Mézenf appelle donc à la cohérence et il regrette que l'on aide l'UCA à Paris et que dans le même temps, on met de côté le Palika qui, lui, condamne la CCAT. Le député de la première circonscription salue encore la mission de concertation et de dialogue conduite par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et il est aussi satisfait de l'annonce du report des élections provinciales à fin 2025, mais il rappelle qu'il faudra modifier le corps électoral.
Oui, moi, je faisais partie des gens qui avaient demandé le report des élections provinciales parce que, clairement, je trouve que l'ambiance n'est pas à faire une énième campagne électorale en Nouvelle-Calédonie. Il y a des urgences à traiter. Il y a des urgences pour nos entreprises, pour nos salariés. Et je ne voyais pas partir encore en campagne électorale avec derrière, forcément, un débat qui va se radicaliser encore plus, avec derrière le temps de mise en place des institutions, des nouveaux élus. C'est-à-dire qu'on perd encore 6 mois. Et on n'a pas 6 mois devant nous.
Mais d'ici ces élections, il aura fallu élargir, modifier le corps électoral.
Moi, je suis déterminé à ce qu'il y ait une ouverture du corps électoral pour les prochaines élections provinciales. Jamais je n'accepterai qu'en Nouvelle-Calédonie, les prochaines élections provinciales se tiennent sans un dégel du corps électoral.
Interrogé sur la situation à Saint-Louis et plus globalement sur l'ordre public, Nicolas Mézenf prône la plus grande fermeté.
J'ai eu un rendez-vous avec Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, qui m'a reçu rapidement et je l'en remercie. Et je lui ai demandé, j'ai dit, monsieur Retailleau, j'ai une demande à vous faire. Maintenez les effectifs de force de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas parce que le 24 septembre est passé et qu'il s'est bien passé que ça va continuer. Donc on peut avoir des moments de tension encore en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas fini. Donc s'il vous plaît, maintenez le nombre de forces de l'ordre. Il s'est engagé à le faire, donc on verra.
Concernant enfin les aides économiques, Nicolas Mézenf revient sur l'entretien qu'il a eu avec le ministre de l'Économie.
Les annonces concrètes qui ont été faites ces dernières semaines, elles ont été faites à Sonia Backès et moi-même qui avons rencontré les ministres et de l'économie et du budget. Donc il y a les 10 milliards qui avaient été annoncés déjà de Front Pacifique par Bruno Le Maire qui vont être versés à la Nouvelle-Calédonie. Ça nous a été confirmé par Antoine Armand, le nouveau ministre de l'économie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et une autre grande nouvelle, c'est que le ministre du budget, lui, nous a confirmé à Sonia Backès et moi qu'il y aurait 59 milliards de garanties d'investissement de l'État. C'est-à-dire pour que les collectivités puissent refinancer de l'investissement et donc aider les entreprises à redémarrer. Donc voilà, on a eu du concret quand même ces trois dernières semaines en termes d'annonces économiques, donc on est très satisfait de ça.
Et l'interview de Nicolas Metzdorf à retrouver très bientôt en audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu.
Et ce sont là des thèmes que vous évoquez aussi, Elisabeth, dans la chronique de la semaine écoulée.
Les 2 minutes 30 consacrées à la Nouvelle-Calédonie dans la déclaration de politique générale du Premier ministre ont suscité de nombreux commentaires et réactions, souvent élogieux, parfois très critique, mais elle ne méritait ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Que la Nouvelle-Calédonie ait été la seule collectivité dont ait parlé le Premier ministre, c'est un signe fort. Mais qu'il en ait dit si peu, c'est une déception, parce que clairement, nous sommes restés sur notre faim. Michel Barnier parle d'une crise d'une gravité exceptionnelle, et l'expression est faible, voire inappropriée. Ce n'est pas seulement une crise d'une gravité exceptionnelle quand un territoire est dévasté parce qu'il fait face à une insurrection d'une violence inédite. Ce n'est pas seulement une crise d'une gravité exceptionnelle quand près de 5 mois après le début des émeutes et malgré l'investissement hors norme des forces de l'ordre, on ne peut toujours pas circuler à Saint-Louis. Ce n'est pas seulement une crise d'une gravité exceptionnelle quand l'économie est exsangue, que les collectivités sont en faillite et que tous les organismes sociaux sont en cessation de paiement. D'où l'irritation que certains ont pu ressentir en entendant les propos du Premier ministre, comme si l'État n'avait pas vraiment pris la mesure de la situation. On va vers une désescalade, bien sûr, mais la crise à laquelle est confrontée la Nouvelle-Calédonie est dramatique, épouvantable, effrayante, catastrophique. Pas seulement d'une gravité exceptionnelle, il faut savoir bien nommer les choses. Alors certes, Michel Barnier nous annonce l'envoi d'une mission de concertation et de dialogue de très haut niveau, puisqu'elle sera conduite par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il installe aussi auprès de lui et du ministre des Outre-mer une délégation interministérielle et il parle d'une nouvelle période consacrée à la reconstruction économique et sociale et à la recherche d'un consensus politique sur l'avenir institutionnel, signe qu'il a tout de même conscience des enjeux. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est bien sûr la façon dont il a annoncé que le projet de loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral ne serait pas soumis au Congrès. On le savait, puisque le président de la République avait déjà dit la même chose à au moins 2 reprises. Mais depuis des mois, les indépendantistes feignent de ne pas avoir compris et demandent à l'État d'être explicite sur ce point. Dans une volonté d'apaisement, Michel Barnier a sans nul doute voulu leur donner des gages, en le répétant une fois de plus. Mais c'était maladroit, et c'était méconnaître le climat explosif de la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai. Tellement maladroit qu'il a dû rectifier le tir le lendemain devant le Sénat, en déclarant, ce que tout le monde sait aussi, qu'il faudra travailler sur l'élargissement du corps électoral pour les prochaines provinciales. S'il avait prononcé ces mots la veille devant l'Assemblée nationale, on aurait évité un psychodrame et la colère du député Metzdorf, qui l'a interpellé vivement en l'accusant d'avoir humilié et abandonné les Calédoniens. Le député de la première circonscription devait-il employer un tel ton à l'égard du Premier ministre nouvellement nommé ? Ça fait débat, mais on relèvera que l'heure n'est pas aux propos aseptisés et que pour être entendu dans le brouhaha politico-médiatique, il vaut mieux parler fort et créer des contentieux. On peut d'ailleurs légitimement se demander si le Premier ministre aurait changé son discours devant le Sénat sans la démonstration d'indignation du député calédonien. On retiendra aussi de cette intervention de Michel Barnier le report des élections provinciales jusqu'à 2025 et sa volonté de s'engager personnellement dans le dossier calédonien, ce que tout le monde souhaitait, tellement les implications sont interministérielles. Mais il ne faut pas non plus en faire un prérequis. Ce n'est pas l'hôtel Matignon qui change la donne. C'est la personnalité de son locataire et sa capacité à trouver une méthode et une issue à la situation inextricable dans laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie. C'est sur le long terme que l'on pourra juger de l'action de Michel Barnier et pas sur 2 minutes 30.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver à 16h cet après-midi sur l'antenne de Radio Rythme Bleu ou alors déjà sur notre site internet le www.rrb.nc. Il est 11h45, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et internationale et on commencera par cette série d'hommages un an après les attaques du 7 octobre dernier.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
Et à la veille des hommages du 7 octobre, des rassemblements étaient organisés partout en métropole. Les manifestants demandaient toujours la libération de la centaine d'otages qui restent encore détenus aux mains du Hamas. À Paris, le cortège s'est réuni devant l'UNESCO, place de Fontenoy, avant de rejoindre le Trocadéro. Et c'est l'émotion qui a dominé Yohann Madec.
Oui, d'abord il y a eu les chants, les prises de parole d'artistes et les témoignages de proches d'otages toute l'après-midi devant une foule souvent silencieuse et émue. Face à la scène donc, qui est à côté de l'UNESCO, beaucoup étaient en famille et semblaient être venus principalement pour partager leur peine avec les autres, comme Sylvie que j'ai rencontrée accompagnée de ses enfants et petits-enfants.
J'ai été bouleversée par tout ce qui s'est passé il y a un an. On commémore parce que cette date du 7 octobre a été un tournant dans notre vécu. Enfin, nous avons subi un trauma qui ne passe pas, hein, même ici, même pour nous.
À 18h, alors que les organisateurs annoncent la fin de la commémoration, un groupe de plusieurs centaines de personnes se forme et entame alors une manifestation en direction du Trocadéro. Là, l'ambiance change, on réclame avec force la libération des otages, accompagnée de slogans scandés sur tout le trajet, comme « Israël vivra » ou « Hamas, Hezbollah, assassin ». Mais la tristesse demeure aussi à cet instant, comme le raconte Sophie.
Il y a beaucoup de tristesse dans cette manifestation, mais on n'a pas besoin d'être juif pour les défendre. On a juste besoin de se sentir concerné. J'ai attendu tous les otages, j'ai attendu Ingrid Betancourt et j'attends encore aujourd'hui que les otages qui ont été pris au mépris des lois internationales soient libérés.
Mais tristesse ou pas, tous l'affirment, ils seront présents au rassemblement de demain.
Yohann Madec pour Europe 1. J'ajoute qu'Emmanuel Macron recevra les familles françaises des victimes et otages la nuit prochaine à l'Élysée. Les autorités qui craignent par ailleurs des troubles à l'ordre public autour des commémorations du 7 octobre en métropole. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a donc demandé une vigilance accrue au préfet. Sont visées notamment les manifestations pro-palestiniennes organisées près des lieux d'hommage. Les forces de l'ordre vont également encadrer les cortèges et surveiller les lieux de culte. Écoutez Éric Henry, secrétaire national du syndicat Police Alliance.
Ce sont des patrouilles dynamiques aux abords des lieux de culte, au moment de l'entrée des fidèles dans l'office et au moment de la sortie des fidèles. S'il y a commission de délit ou crime, évidemment en flagrant délit, constaté par les services de police, il y aura immédiatement interpellation, placement en garde à vue et présentation devant l'autorité judiciaire.
Le ministre de l'Intérieur a demandé également le signalement systématique à la justice de tout propos injurieux ou antisémite durant ces commémorations. Et puis des rassemblements également en Israël. Les familles des victimes du festival Nova se sont retrouvées dans le nord de Tel Aviv pour une première cérémonie d'hommage devant les photos des jeunes tués par le Hamas. Écoutez Annie qui a perdu sa fille et Nisria qui a perdu son fils.
C'est assez dur de se retrouver, de retomber dans cette période où les gens qui sont tristes et puis toutes les commémorations et tout ça. En fait, ça nous replonge un an en arrière. C'est les larmes qu'on nous ont coulées, à moi, à ma fille, à mon mari, parce que c'est pas facile toujours de voir les photos.
Ce sont les seuls qui peuvent comprendre ce que je traverse. Et moi, je comprends le deuil de toutes ces familles, leur douleur. On vit dans un cauchemar. On n'arrive toujours pas à réaliser qu'une chose pareille ait pu se passer. Mon fils me manque tellement. Je rêve qu'il revienne.
Et demain, une matinée de commémoration est prévue sur le site même du Festival Nova où 410 personnes ont été tuées le 7 octobre 2023. Et c'est donc dans ce contexte qu'Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se sont téléphonés la nuit dernière. Un échange après des tensions diplomatiques entre Paris et Tel Aviv. Le président de la République qui avait appelé à ne plus livrer d'armes à Israël si elles devaient être utilisées à Gaza. Le Premier ministre israélien a dit à Emmanuel Macron qu'il attendait à ce que les amis d'Israël se tiennent à ses côtés. De son côté, l'Élysée affirme que cette conversation s'est déroulée en toute franchise dans le respect de l'amitié entre les deux pays. Demain, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot se rendra en Israël. L'actualité politique en métropole, et c'est à Nice que le Rassemblement national a décidé de faire son meeting de rentrée. Le parti de Marine Le Pen se veut toujours en campagne pour les prochaines élections, Maïlène Trémollet.
Oui, jusqu'à la victoire, c'est le nouveau slogan du parti à la flamme qui lance sa campagne permanente avec un rythme d'un meeting par mois sur toute l'année. L'objectif principal, c'est de préparer d'éventuelles élections législatives dans quelques mois, comme l'exige Marine Le Pen.
Non seulement nous pensons qu'il y aura des élections dans moins d'un an, mais surtout que nous considérons ces élections comme urgentes pour notre pays. La France a besoin d'un gouvernement avec une légitimité démocratique forte pour faire face aux enjeux majeurs qui touchent notre nation.
Marine Le Pen qui veut s'installer comme l'unique alternance face à un nouveau gouvernement allant de la gauche jusqu'aux Républicains et se pose ainsi comme seul adversaire au camp d'Emmanuel Macron. Sur la question budgétaire, la chef de file du RN à l'Assemblée insiste particulièrement. Elle dénonce un déficit massif dont le montant est resté trop longtemps caché.
C'est bien ce même parti unique qui a ruiné le pays, qui s'est rassemblé pour empêcher le Rassemblement national de gouverner le pays. Le Front républicain n'est qu'un syndicat de la faillite. Ils ont ruiné la France et ils ont menti aux Français.
Un message direct alors que le budget doit être présenté cette semaine à l'Assemblée nationale, que la hausse d'impôts fait toujours partie des divergences radicales entre le nouveau Premier ministre et le RN et que le parti tient entre ses mains une potentielle censure du gouvernement.
Maïlène Trémollet pour Europe 1. Toujours l'actualité en métropole, deux morts en deux jours à Marseille, la cité phocéenne endeuillée de nouveau par la guerre du narcotrafic. C'est l'horreur absolue. Tout a commencé mercredi. Un adolescent a été assassiné froidement dans la rue. Écoutez le procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessonne.
Lui va être lardé de 50 coups de couteau, conduit à la cité Font-Colombe, où, selon les résultats de l'autopsie, il va être brûlé vif.
Un prisonnier a alors recruté depuis sa cellule un tueur à gages de 14 ans venu du Vaucluse pour la somme de 50 000 euros, soit 6 millions de francs, pour venger la DZ Mafia de ce premier crime. Mais rien ne va se passer comme prévu. Il a mis une balle dans la nuque de son chauffeur VTC qui a refusé de l'attendre le temps de commettre son crime. L'adolescent sera dénoncé à la police par son propre commanditaire. Un nouveau crime qui marque un palier franchi dans la violence, selon le procureur Nicolas Bessonne.
Là, vous avez une victime totalement extérieure qui va être froidement abattue. Une revendication. Là aussi, c'est très nouveau.
Le tireur et le commanditaire ont donc été déférés au parquet. Une information judiciaire a été ouverte. Il est 11h53. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment une campagne d'aide à la relance du travail indépendant par l'ADI.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
La BNC fête ses 50 ans, alors jusqu'au 8 novembre, profitez des 50 jours anniversaires. Découvrez tous les avantages de nos forfaits bancaires avec 50 forfaits offerts. À la BNC, notre histoire, c'est votre histoire. Plein d'autres surprises à découvrir sur notre site internet bnc.nc, sous réserve d'acceptation de la Banque de Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Excellente journée. La suite d'Infomag, on retrouve Nicolas Legrand.
Et la province sud qui relaie l'opération Octobre Rose dans les communes de son territoire. Aujourd'hui, un atelier d'autopalpation avait lieu de 9h à 11h dans la maison de quartier d'Apogoty. L'objectif, c'est de faire la démonstration aux femmes afin qu'elles puissent reproduire chez elles ce geste simple mais souvent salvateur. Écoutez Anne Dupont, elle est sage-femme à la province sud et elle était chargée d'animer cet atelier ce matin.
Le principe, c'est d'apporter de l'information aux femmes, aux hommes, hein, parce que le cancer du sein peut aussi toucher les hommes. Parce que l'autopalpation, c'est un geste qui est assez simple et qui permet de détecter facilement un cancer du sein. Ce cancer, c'est le premier cancer de la femme et plus tôt on va le détecter, mieux on va pouvoir le soigner. L'autopalpation peut commencer à peu près autour de 20 ans, en sachant qu'à 20 ans, on a des seins qui sont plus fermes, etc. Donc c'est un petit peu plus compliqué. C'est une fois par mois. Il faut que ça rentre dans la routine, en fait, à la douche. On fait d'abord l'examen visuel de la poitrine et après, on va palper les seins. Donc nous, aujourd'hui, on va expliquer comment on procède pour qu'après, les femmes, elles puissent le faire facilement chez elles.
Le même atelier était proposé ce matin à Boulary, à Dimbéa. La prochaine date sera le 25 octobre au CMS de Dimbéa-sur-Mer. Pour connaître les rendez-vous dans les autres communes, rendez-vous sur le site de la province sud, province-sud.nc. Et puis les vacances s'ouvrent, des vacances d'octobre. Et pour cela, la ville de Dimbéa organise des activités sport et culture, des animations proposées aux enfants et aux jeunes de 7 à 17 ans. Isabelle Pelletier.
Oui, et ce lundi, un groupe d'enfants et d'ados profite de ce panel d'activités à la fois sportives et culturelles au complexe Omnisport de Coutio. Théva Legrat, éducateur sportif à la ville de Dimbéa, il encadrait ce matin un petit groupe d'enfants sur le thème « Mon île rêvée », une façon de stimuler l'imagination des plus jeunes dans un contexte grave, une créativité déployée aussi dans les activités sportives. On écoute les précisions de Théva.
Sur cette semaine, on est sur la thématique destination île rêvée. Donc on va essayer de mettre en avant la thématique, leur faire toucher du doigt. Donc il y aura de la confection de maquettes. On va essayer de construire un quiz imaginaire où on va vraiment faire parler les enfants, l'imagination des enfants. Et on va aussi, à travers les activités sportives, essayer de remixer un petit peu les activités sportives qu'on connaît, essayer de fusionner un peu des activités pour essayer de toucher un petit peu à l'imaginaire et sortir un peu du cadre des activités sportives qu'on propose habituellement. Sur l'activité football, par exemple, ce matin et cet après-midi, ils seront sur du basket. Et l'idée, c'est de créer un sport un peu imaginaire entre le foot et le basket, par exemple.
Germain, Victoria, Daryl et Anaïs sont âgés de 7 à 9 ans. Ils faisaient partie de ce groupe Île rêvée. Bus magique, fusée ou licorne, ils ne manquaient pas d'imagination ce matin.
Ils nous posent des questions sur une île de rêve et nous, on doit dire des objets. Par exemple, s'ils nous demandent une maison, ben on va dire quelque chose. Et après, il va reconstituer les deux mots. Comme ça, et ben, ça va faire une maison marrante.
Qu'est-ce que tu as comme idée, toi ?
Moi, j'ai dit une fusée. Pour quand je dors dedans, ben, en même temps, je vole. On va poser des questions. Par exemple, quel est ton transport habituel ? Ben, moi, j'ai déjà un bus pour me transporter où je veux.
Tu dois rêver une île que tu veux faire avec des animaux, une rivière, des avions, des chevaux. Plein de trucs.
Et ben moi j'ai 5 parties, une où il y a la maison, une autre où il y a la rivière, une autre où il y a la plage, une autre où il y a un parc et une autre où à l'endroit où il y a tous les frères et sœurs ensemble pour jouer ensemble.
Les stages sport et culture de la ville de Dimbéa sont organisés à Coutio et Katiramona. Deux grandes journées d'animation sont prévues les jeudis 10 et 17 octobre. Au Big Up Spot pour la première, à Katiramona pour la seconde. Des ateliers gratuits sont encore proposés dans les structures municipales. Plus d'infos sur le site de la ville dimbéa.nc.
Et puis pendant leurs vacances, il y en a qui ont choisi de se lancer dans le service national universel, le fameux SNU. La cérémonie d'ouverture s'est tenue au lycée Lapeyrouse ce matin en présence notamment du haut-commissaire Louis Lefranc, mais aussi de la vice-présidente du gouvernement Isabelle Chamorro, des jeunes volontaires de 15 à 17 ans venus de tout le territoire qui vont participer à ce stage de cohésion pendant leurs vacances. Et puis, en bref, toujours promouvoir la relance par le travail indépendant. C'est le nom de la campagne de sensibilisation lancée par l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Jusqu'à la fin de semaine, 34 événements gratuits sont organisés en Nouvelle-Calédonie, mais aussi à Wallis et Futuna. Des cafés ou rencontres informations avec pour but d'accompagner des porteurs de projets ou des entrepreneurs souhaitant relancer leur activité. L'ADI propose également un soutien financier en offrant aux travailleurs indépendants un pack relance sous forme de prêt à taux zéro en complément des microcrédits accordés. L'agenda des rencontres est disponible sur le site internet adi.org. Et enfin, encore un heureux gagnant au 40-20. Émilien de Népouy a envoyé son SMS RRB au 40-20 au bon moment, ce lundi à 10h15. Il remporte 100 000 francs à dépenser où il veut, quand il veut, et ça va très vite. Alors pour être le prochain gagnant, envoyez dès maintenant RRB au 40-20. Tous les SMS, rappel, sont envoyés vous permettent de participer au prochain tirage du million, 1 million de francs en bon d'achat. Il est midi sur Radio Rythme Bleu, on va marquer une nouvelle pause dans ce journal.